Le titre le meilleur, c'était peut-être celui qu'on avait donné au cahier sur la ville de Calais que j'avais dirigé avec des étudiantes, qui était « Ce qui se passe ». Ce qui se passe à Calais. Mais le français a quand même des ressources linguistiques étonnantes pour sur ce problème des migrations, parler de l'expérience, ce qui se passe. En anglais, si on dit « what's happening », ça donne pas ce qui se passe avec cette idée d'échange, cette idée de temps, ce rapport au passé, le passant. C'est un peu un travail sur les passants que j'ai fait. D'ailleurs, un des titres auxquels j'avais pensé, c'était « Les revenants », parce qu'il y a aussi cette sorte d'inversion du nord qui allait au sud. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le sud vient au nord? Mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, en osant bafouiller, je dirais, donc faire partie de cette deuxième sorte d'intervenant qui essaye de réfléchir en même temps qu'il parle, ce qui peut être un petit peu risqué de temps en temps, c'est d'accentuer cette idée de politique, la question politique des migrants. Alors, surtout pas dans le style « tout est politique », ce qui veut dire que rien ne l'est, mais plutôt qu'il faut réviser la plupart des notions que nous utilisons pour parler de ces choses-là, notamment à la suite de ce qu'on peut appeler, avec toutes les guillemets qu'on veut, la crise des migrants. On a le droit de l'appeler comme ça si on dit que c'est notre crise et non pas celle des migrants, je pense. Il y a un article qui portait un de ces titres-là, qui va apparaître dans Tumulte très bientôt et qui donne un petit peu la base des leçons que je tirais de Calais pour poser en termes politiques la question des migrants. Et puis pour ce qui est de l'enquête même sur Calais et avant sur les Roms, après à la chapelle par le Pérou, bon, le site, si vous tapez Pérou tout seul, vous avez une agence de voyage, donc l'idée était bonne, mais donc il faut mettre migrants à côté, puis là vous tombez sur le bon site, et il y a énormément de documentation, puisque l'un des axes de cette association, c'est bien de... Latour dit un peu en ironisant que Sébastien documente l'accueil, donc il va y avoir une petite critique derrière, mais si on prend ça au sérieux, au contraire, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut savoir, avec tous les points d'interrogation, sur un événement dont, d'une certaine façon, il a quelque chose de séminal sur les mondes à venir. C'est un peu la thèse que je vais défendre. D'ailleurs, par rapport au colloque, je crois que c'est ce parallèle entre les plantes, les petites bêtes, voir tout en temps le vivant et les animaux, et puis les migrants ne se fait pas facilement. C'est aussi lié à cette opposition, d'ailleurs, dans les deux formes de savoir. Je crois que s'il y a un point commun, c'est bien une espèce d'effet de sidération qui indique ce point liminal. C'est pas parce que des problèmes sont graves, difficiles, qu'on les aborde, bien au contraire, je pense. Il n'y a pas des urgences auxquelles le politique se met à répondre. Très souvent, quand l'urgence est vraiment maximale, c'est le moment où il y a au contraire une espèce de rideau et d'absence de politique. C'est vrai, c'est un peu la thèse de Gaïa, non pas Gaïa comme super-organisme, non pas Lovelock, mais plutôt celle de Latour, pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inversion. Alors qu'on avait des tas de domaines séparés et qu'on allait vers des mondes à faire, d'un seul coup, une espèce d'urgence. Mais non, la planète est limitée et c'est elle qui nous envoie l'exigence de penser à nouveau. Cet aspect un peu dramatisé, voire apocalyptique, avec les thèses sur l'effondrement, nous renvoie. Je crois qu'il y a aussi un peu le même problème avec les migrants qu'on a vu très fortement hier, avec cette tension entre un impératif de les soutenir, donc une question posée presque uniquement, même pas posée, je pense, un point de vue qui ne doit pas tellement se défendre lui-même. Oui, c'est une question humanitaire. Alors, humanitaire est un peu faible, ou éthique, vous voulez, mais un choix. Oui, nous sommes dans la presse, on appelle ça pro-migrant ou anti-migrant. Donc, on est pro-migrant. Et il y a beaucoup de questions qu'on ne pose plus. On est anti-migrant. Mais je pense qu'il y a un peu le même effet de sidération sur qu'est-ce que ça veut dire que les migrations à venir pour nous, si on les prend comme notre problème. On remet avec tous les guillemets qu'il faut mettre, enfin pas les guillemets, les subtilités qu'on peut mettre derrière cette reconstruction du nous que ça suppose. Et ça se traduit par ce que, de façon un peu caricaturale, je dirais, une sorte d'absence du politique, à condition, j'y reviendrai bien sûr, à condition qu'on redéfinisse un petit peu ce que c'est que la politique, ni celle du contre, je suis contre le système, donc je fais de la politique, ni évidemment celle des hommes politiques, ou l'opinion publique, naviguons, pour gérer à court terme ce qu'on appelle pour le coup une crise un peu pour ça, sans du tout nous demander mais qu'est-ce qu'on fait des migrations à venir. Alors, comme c'était aussi un petit peu la règle du jeu dans ce colloque, je veux dire brièvement d'abord d'où je parle, parce que ça t'a fait un peu flotter au moment de la présentation, quel rapport entre un sociologue de la musique au début. Il existe bien ce rapport, je vais passer vite, hein, mais moi j'ai pris presque comme une insulte le fait qu'on me désigne par ma discipline de sociologue, parce que je me sens... Non, au contraire, c'est très fécond, parce que je me sens de moins en moins sociologue, sauf quand je parle de non-sociologue, auquel cas je vois tout ce que la sociologie m'a apporté. Mais la sociologie, c'est une machine à faire disparaître les objets, les enjeux dont on parle. Donc, pour le dire, c'est du social. Et là, du climat, aux migrants, au corps, aux gènes, à la sexualité, toutes les questions, les studies américaines sont venues remettre les objets au cœur, les objets ouverts, problématiques, au cœur de nos interrogations. Et donc là, celui qui va chercher de la domination partout en prenant du recul, il est un peu désarmé. Alors, un des intérêts pour lesquels je m'étais intéressé à la musique, c'est précisément qu'elle nous présentait une ontologie pratique ouverte. C'est la banalité, il faut partir du sens commun. Les choses ne sont pas données, il faut les faire, et elles se font faire, elles nous font en retour. Une œuvre est jamais là, il faut toujours la rejouer. Donc cette espèce de façon de se servir de la musique pour travailler sur des médiations. Médiation, c'est donc ni une cause ni un effet, c'est quelque chose qui arrête, sur lequel on s'appuie et qui fait faire autre chose. Donc cette espèce de mobilité, pour prendre un mot qui a été beaucoup utilisé, était très utile et nous a ouvert. Alors je dis nous parce que ça c'est plus le CSI, le club, la tour CSI d'un côté, Stengers et les plus jeunes après, Debez, etc. En Belgique, et puis les Anglais, à réinvestir le pragmatisme. Alors, un tout petit topo sur le pragmatisme. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas l'usage qu'on a dans la presse. Hein. Pragmatique, ça veut dire on oublie les principes, et puis c'est confondu avec opportunisme, et même opportuniste pourrait être défendu, vous avez raison. Ça veut dire Sarkozy ou Hollande, à tour de rôle. Moi, je navigue au fil du vent. Donc c'est évidemment pas ce sens-là qui m'intéresse, ni même celui plus technique de la sociologie pragmatique, pour ceux qui sont intéressés à Boltanski-Thévenot, une sociologie très efficace, mais dont pragmatique faisait juste allusion à la pragmatique de l'énonciation, et donc à un modèle extrêmement structuré, et qui tourne, il va de haut en bas pour qualifier nos actions, alors avec le pluralisme, avec les épreuves, des choses communes, mais qui n'est pas du tout le modèle de la philosophie pragmatique. Donc, pour le dire très très brièvement, et souvent on réécrit évidemment les auteurs au fur et à mesure qu'on en a besoin, et donc le retour à un pragmatisme, disons, surtout Dewey, mais aussi James, c'est qui nous tend je vais exprès dire un modèle, parce que c'est pragmatique au sens où c'est pas une pensée transcendantale, c'est pas les Allemands qui grattent en dessous pour trouver l'être ou qui remontent en haut, c'est pas les Français qui suivent le cours des choses avec des formules très littéraires, hein. C'est une philosophie de logicien qui se pose la question de ces mondes en train de se faire. The world is still in process of making, disait James. Il y avait de l'humour en le rappelant aux philosophes que le monde était encore en train de se faire. Et donc, mais qu'est-ce que ça suppose? Cette sorte d'ontologie pratique, pragmatique. Et le seul point que je voudrais résumer par rapport à nos questions climat migrant, c'était quelque chose que de certains auraient peut-être appelé l'inversion du pensable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'espèce de base matérielle et puis dessus des couches de plus en plus compliquées, c'est l'inverse d'une certaine façon. Il n'y a pas d'extériorité des GEMS, on est pris dans des couches de réalité hétérogènes, donc le matériau même peut n'avoir rien à voir. Et une phrase sans extériorité, donc, et une phrase que je trouve extraordinaire pour un philosophe, qui est « loosely connected », relié lâchement. Ça ne fait pas de la philosophie allemande. Et effectivement, la musique, il y a des pianos, il y a des partitions, il y a nos goûts, il y a nos corps, et ça fait musique. Et puis, mais est-ce que ça fait musique ? Ou est-ce que la musique se transforme au fur et à mesure que chacune de ces réalité loosely connected s'engage. Alors, je disais ça parce que, aussi par rapport à l'engagement, ça donne de l'engagement une définition extrêmement matérielle et ontologique. C'est presque physique, comme on dit, s'engager les doigts dans une porte. C'est pas du tout le point levé face à une réalité qui serait donnée. Ça veut dire qu'on arrive à penser que dans l'expérience de ce qui est en cours. Donc c'est là que ça change beaucoup la sociologie. Et l'autre terme clé du pragmatisme, c'est bien l'accent sur l'enquête. Et l'enquête étant celle que font les acteurs et pas celle du sociologue. Donc c'est une énorme différence. Enquêter, c'est exister, c'est se demander ce qui arrive, le prendre en charge et le développer. Donc cet engagement très radical, évidemment, c'est une enquête avec, une enquête depuis, une enquête pour, et pas du tout une enquête sur, en gros, c'est-à-dire la définition traditionnelle de l'enquête. Alors ça, je disais ça aussi sur mes hésitations par rapport à la sociologie, puisqu'évidemment, elle l'a pris de la discipline elle-même, qui est un peu sinistrée, il faut reconnaître, l'a pris pour moi, je dis ça, on est entre nous, hein. Elle a pris très mal ce glissement, puisqu'on lui enlevait sa fonction critique pour se dire que c'est dans l'action même que les choses se font. Et du coup, elle a elle-même inventé cette espèce d'opposition entre pragmatique et critique. Alors que pour moi, s'il y a une philosophie de l'action engagée, et donc profondément critique au sens initial du terme, enfin qui est sur le fil de ce qui doit se jouer aujourd'hui, c'est bien un engagement pragmatiste. Et James est un penseur de la catastrophe, hein, disant il faut pas croire aux catastrophes, il faut pas se laisser avoir par la catastrophe, mais il faut penser face à la catastrophe possible. Parler qu'une pragmatisme au sens courant du terme, on en est très loin. S'il y a un défaut, c'est plutôt d'être protestant et curieux, d'être extrêmement moralisant. C'est une philosophie très éthique où on est entièrement responsable des mondes qui nous arrivent et qu'on fait nous-mêmes à travers notre engagement. Il a des très belles formules sur le fait que c'est sans garantie. C'est-à-dire, on doit s'engager dans des mondes que le fait même qu'on s'engage dedans peut les faire arriver sans garantie. Mais en revanche, ce dont on est sûr, c'est que si on s'engage pas dedans, ils arriveront pas. Donc là, c'est une philosophie extrêmement... C'est le comble de la responsabilité, d'une façon pas du tout une sorte de philosophie dégagée. Alors ça change beaucoup l'enquête, et c'est là que je me suis intéressé, moi, au Pérou. Je travaillais, après avoir travaillé sur les médiations et les attachements, on pourra y revenir, je travaillais sur ce que j'appelle les fragilités, non pas un sens négatif, bien sûr, mais au contraire dans ce qu'elles ont de plus positif, c'est aux fractures, donc ça peut toujours casser, fragilité, mais c'est aussi à cet endroit-là qu'il y a la petite pulsion de l'existence et aussi des futurs au pluriel, avenir, y compris les catastrophes possibles et des choses qui peuvent surgir. Alors, d'où des projets de recherche où on essaye de redéfinir l'enquête. Alors je dis « on », c'est... des groupes divers et avec beaucoup des jeunes chercheurs, hein. Je suis très frappé. Moi, tous les jeunes, je les appelle gauchistes quand ils sont. Mais c'est parce que je suis un vieux crabe. Parce que le mot correspond absolument pas, là. C'est des jeunes qui sont non pas angoissés, mais qui ont le souci du monde. Enfin, le monde qu'on leur laisse, là, leur fait peur. Le problème du climat, les façons plus ou moins naïves ou au contraire très, très riches de s'engager sont des engagements dans le monde, mais aussi des engagements nécessaires. C'est ça, Gaïa. C'est que maintenant, ça devient leur urgence. Nous, c'était du luxe, la critique. C'était des fils de bourgeois qui avaient en plus la critique et en plus le point levé et qui fantasmaient sur Mao. Non, là, au contraire, ils sont hyper réalistes. Mais réalistes, pas au sens, il y a de la réalité là, mais la réalité qui nous vient, nous devons la prendre en charge. Et donc, avec ces jeunes, l'idée d'avoir une enquête un peu triangulaire se fait, c'est-à-dire qu'on est sur des objets qu'il faut à la fois, sur lesquels il faut enquêter, donc le lien avec ce qu'on appelait avant la démarche scientifique, produire de l'information, qu'il faut mettre en forme, et donc là, les artistes, pas les artistes des galeries, là, qui se dit, oui, comment je peux mettre en mots, mettre en forme les exigences présentes du monde, et puis l'action, simplement, donc ce qu'on appelait politique, hein, qui consiste à dire, et alors comment, à partir de ces enquêtes sur ce qui se passe, de cette mise en forme souvent mieux faite par des artistes, avec les techniques des artistes, que par les articles des sociologues, on peut aboutir à une action qui veut surtout dire une sorte de mobilisation et de formulation des enjeux possibles. Alors, de la rencontre avec le Pérou, parce que, alors que je trafiquais ces choses-là avec un projet LRC qui a évidemment pas marché, l'Europe n'est pas exactement dans cette optique-là, où on mélangeait l'aide à domicile, le CAIR, hein, qui est le soin, donc là aussi des êtres, sens du geste juste, accompagnement de situation en train de se faire. Et la démarche du Pérou sur Calais, moi j'avais un peu accompagné au moment des Roms, mais surtout c'est surtout sur Calais que j'ai suivi. C'est exactement ça. Hein. Et je trouve que Sébastien Thierry, puisqu'il est pas là, on peut faire un hommage, qui est politologue à la base, qui doit servir à quelque chose, mais qui travaillait beaucoup sur urbanisme, architecture, etc. Donc des lieux à occuper, des peuplements qui bougent, avait intuitivement. Exactement ce que moi je disais lourdement avec mes mots sur pragmatisme, etc., c'est-à-dire quelle est l'action juste. Donc c'est apolitique en fait, à mon sens, alors qu'il parle de façon très fleurie, et il parle assez peu directement de politique, donc il a un discours très littéraire. Mais non, je vais vous le dire avec quelques exemples, là, la chose même dont il s'agissait, qu'il s'agissait de promouvoir l'action en cours, qui s'agit de promouvoir sur les Roms, était assez simple. Les Roms, il y a un petit côté racisme permis. Il y a des milieux, on a des races, tous les racismes sont interdits, mais le Rom est quand même un peu voleur. Donc il y avait ce truc à reprendre, et qu'il a repris admirablement. Donc ils étaient dans des endroits, là, les Roms de Roumanie, hein, venus, ils étaient dans des endroits sinistres, hein, des poubelles sous les autoroutes, etc. Et on voyait, hein, c'était aussi une leçon sur la force de l'architecture, pour moi, qui connais mal l'architecture, hein, c'est-à-dire qu'en élargissant un tout petit peu la rigole du milieu, en créant un espace au milieu, on transforme un égout en village. Je veux dire, il faut très très peu de choses, et c'est les outils de l'architecte. Alors, avec eux, puisque c'est pas les architectes qui sont venus construire des baraques pour les Roms, ils avaient déjà construit beaucoup de choses, qui est un autre thème du Pérou, partir de ce qui existe, de ce qui s'invente dans la contrainte maximum. Ça ne veut pas dire qu'on la justifie. Et puis faire des liens. Donc dès qu'il y a un espace propre, ça ressemble à ce dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Dès qu'il y a un espace propre, il y a aussi la relation avec les autres. Et donc tout le travail a été pour installer des relations multiples, en jouant sur le politique au sens habituel du terme, dans ces villes de banlieue où il y avait un petit jeu communiste-socialiste amusant, puisque à chaque fois que c'était celui qui s'opposait à l'autre, donc dans un cas, quand le socialiste était contre les Roms, le communiste était pour, et réciproquement, on a beaucoup joué de ça, et d'association, pour... Alors, est-ce que c'est analyser, est-ce que c'est mettre en forme, est-ce que c'est faire agir? Ben, c'était les trois. C'est là que je trouvais qu'il y avait une ligne très juste, puisque ça a transformé. Bon, le droit, dont on a parlé aussi, est extraordinaire là-dessus, puisque en même temps, ils sont au Rome et personne n'en veut. Hop, les enfants sont scolarisés, puisqu'on est en France, et les enfants de moins de 17 ans sont scolarisés. Et donc, les professeurs, les parents d'élèves, les amis, et donc, il y a eu tout le suivi d'une espèce de réseau hétérogène, fragile, avec les villes, et des combats avec des associations, qui sont donc découvrir une forme de politique trop rigide, qui est la politique contre, et qui consiste vraiment à surtout sur regarder le système et à prendre des mesures radicales. Et donc tout ce qui était cette connectique à rétablir, hein, ces pansements mis sur des situations difficiles, pas avec peut-être pansement avec un E, peut-être, était vu comme collaboration avec le système. Et non, il faut juste. Et donc il y a eu des tensions assez fortes. Calais arrive. Alors là, c'est vraiment des décisions mais qui viennent dépendre pas de nous. Hein. C'est la guerre qui fait massivement multiplier par 10 le nombre de migrants en 2015. Et donc la jungle de Calais prend des proportions énormes. Et là, il y a un consensus. Hein. C'est Delanda Est, la jungle. Hein. C'est Jungle, je sais pas comment on dirait ça en latin. Consensus, évidemment, de l'extrême droite, tout, des maires qui guettent de ce côté-là pour... Ça aussi, c'est la neutralisation du politique. Il y a une espèce d'effet de vidange. Hein. C'est-à-dire que comme on craint que l'opinion publique soit hostile et qu'on craint que l'électorat nous lâche, on suppose que, et donc on anticipe, et donc pour éviter, même Macron dit ça pratiquement explicitement, hein, pour éviter que l'extrême droite, ben on va faire mieux autant que l'extrême droite, comme ça, on peut le faire à notre place. Tout ça sans trop le dire. Donc, une espèce de machine à avaler le politique. Et alors, c'est là que la justesse du geste de Sébastien, je trouve, c'est que il change de tactique. La jungle. Donc, là, il y avait l'ambiguïté de mon invitation. S'il y avait beaucoup de gens du Pérou, on aurait vu le travail. Donc, là, je vous renvoie plutôt au cahier, parce que c'est pas tout à fait l'objet. Mais ce travail de documentation, c'est un geste politique. C'est-à-dire, ben non, là, on n'est pas là pour construire. Pourquoi on n'est pas là pour construire? C'est parce que la jungle, c'est tout sauf les migrants. j'exagère, c'est les migrants qui étaient là, mobiles, etc. Mais c'était le double, au moins en permanence, de non-migrants. L'Europe entière, le monde entier, les Chinois, est venu dans la jungle de Calais. Alors le geste du maire était réussi, là on l'isole à 7 km pour qu'on n'en parle plus. Maintenant, les gens disent Calais, ils pensent à la jungle et non pas à la ville. Donc c'est exactement l'inverse, ça fait une survisibilisation. Et donc le geste politique, on va petit à petit insinuer le vrai sens de ce mot-là de Sébastien, intuitif, hein, c'est dit mais non. Parce que tous les gens qui aidaient avant, hein, les gens qui venaient au Pérou, c'est pas des gens qui suivaient forcément cette ligne, ils venaient pour aider. Et donc aider, on construit une baraque, on a fait quelque chose de tangible. Hein. Mais non, là il y avait toute la main-d'œuvre nécessaire pour le faire. Il y a même un ingénieur à la retraite qui a fait une warehouse, je sais pas si ceux qui sont allés, c'est magnifique, hein, c'est une énorme usine, un entrepôt où on faisait à la chaîne des cabanes pour les migrants. Donc c'était pas le problème. Le problème, c'était de faire savoir, c'était de faire voir, c'est documenter ceux qui s'inventaient. Et donc c'est pour ça que la phrase un peu ironique de la Tour, elle peut être prise au premier degré, c'est qu'en effet, la tâche prioritaire, c'est là que je vois du politique, c'était de montrer, de faire voir l'invention. Alors ce qui faisait un peu programme, alors là je l'ai vécu, là, c'était pas du tout un programme, c'est-à-dire cette jungle de Calais, est une invention des mondes à venir. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir ce qu'on a eu un peu hier, cette espèce de mendicité très paradoxale, puisqu'on critique l'État tout en lui demandant de faire tout, c'était le contraire de ce qui se passait là. L'État était très peu présent, il avait dégagé les choses. Et après, quand il est revenu, ça s'est pas été beaucoup mieux. Et ce que je disais sur l'invention des mondes futurs, c'est aussi la reprise des mondes passés. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, une ville du Maghreb était là. Je veux dire, la rue principale commerçante, c'était une rue du Maghreb, avec les cafés, avec le thé, pour vous dessiner les espaces, pas seulement le Maghreb. Les villages, donc, il y a des travaux de documentation, il y a des anthropologues, notamment sur le Soudan, justement, qui est venu et qui lui pouvait dire, d'après la façon dont les tentes étaient construites, si on était devant un village afghan, un village soudanais, un village de Tchadiens, ou d'Érythréens. Et donc, ils avaient reconstruit là leur monde. Ça n'enlève aucunement la violence. Et il y avait aussi une accusation, du coup, vous idéalisez la jungle. C'était pas du tout la ligne suivie, je veux dire, comme les Roms avant. Et on est parti de la pire situation. C'était une zone Céveso sur laquelle il y avait une colonie de vacances avant. J'ai jamais compris comment il pouvait y avoir les deux en même temps. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on l'avait mise là. C'était sinistre au début. C'était du sable. Et oui, c'est la contrainte maximum. C'est pas une création des migrants. C'est une création de la maire de Calais et de la volonté de les isoler de la ville et de l'État précédent, qui est aussi intéressant. J'ai enquêté sur Calais, la ville, non pas par rapport à la jungle, mais comment la jungle était déjà dans la ville et comment Calais est devenu en partie sa propre jungle. Mais après Sangat, après les squats dans la partie nord de la ville, il y a eu ce geste-là. Donc vraiment, tout sauf une espèce de programme de migrants souriants et tout, mais avec ça, c'est ça la leçon aussi, hein, dans la pire des situations de contrainte, on avait l'invention maximale avec la collaboration de tous et des moments magiques. Ce que disaient aussi les gens hier soir, c'est pas dans le... Personne n'était en train de donner la pièce à ces pauvres comme la bourgeoise du 19e. Je veux dire, c'est l'institutrice catholique qui venait faire un cours de langue dans la jungle même, parce qu'elle faisait avant ses cours d'alphabétisation. Elle disait pas qu'elle faisait l'aumône ou qu'elle faisait son devoir. Je veux dire, elle disait, mais c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai vécue de toute ma vie. C'est des expériences enrichissantes. De même, ce passage des migrants. Ahmed, Ali, un tel, on avait des personnes. Donc la phrase qui a déjà été dite, c'était des héros. Elle avait le double sens du fait que pour venir là, vu les processus de sélection, c'était des héros. Le passage, que ce soit depuis la Syrie, et encore plus évidemment maintenant depuis l'Afrique, est terrible. Hein, donc c'est des survivors déjà. Mais c'était aussi que sur place, c'était une force vitale. Enfin, je veux dire, une jeunesse souriante, bagarreuse, alors des bagarres. Tant qu'on en veut, hein. Le musulman ne boit pas d'alcool, ça dépend dans quelles circonstances. Hein, bon. Et donc, on avait tout ce mélange très riche, dont il s'agit, c'est donc à la fois de prendre la mesure, de documenter au sens de l'enquête, et donc là, c'est un énorme cahier, avec les ruses de Sébastien avec le pouvoir, puisque c'est financé par le PUCA. Il n'y a pas de système. Il y a des types au ministère de l'Environnement qui travaillent sur les banlieues, sur les choses usées depuis toujours, qui sont intéressés par ça, qui ont lu Ménard, par exemple, qui ont lu De Certeau. Ah, ben, on a un budget, un peu en douce, on le donne là-dessus. sur les zones actuelles de population sauvage. C'était pas dit comme ça. Tout petit budget. La réaction gauchiste moyenne aurait été dire, ah, petit budget, mais on va juste vous faire. Et lui, il a fait le contraire. Ah, ce sujet-là, appel d'offres généralisé, architecte, anthropologue, sociologue, artiste, venez tous. Et évidemment, sur ce sujet-là, sans qu'on les paye, les gens sont venus. Donc l'appel d'offres a fonctionné, malgré l'argent, il s'en est servi comme ça. Et le PUCA a eu le courage de les publier sur son site avec une introduction. Donc ces cahiers-là, qui font 450 pages de documentation, sont actuellement sur le site. C'est ça que j'appelle politique aussi, avec la ruse, avec le système, hein, qui n'est pas un système bloqué, qui est ce qu'on peut faire avec des ressources multiples et hétérogènes. Donc cette documentation, et puis les deux autres tâches pour lesquelles on balbutie plus, hein, qui sont difficiles, la mise en forme artistique. Alors le danger, c'est d'aller vers les milieux culturels, hein, qui est présent, hein, dans le Pérou. C'est-à-dire que c'est, y a aucun mérite, là, hein. Si vous voulez être embauché, que votre exposition soit prise ou que ce soit, vous dites migrant et vous êtes sûr d'être pris. Donc c'est intéressant aussi, hein. Ça veut dire que ce sentiment d'angoisse du monde à venir dont je parlais pour mes jeunes étudiants, il est vrai aussi pour la plupart des gens. D'ailleurs, là-dessus, il y avait des accusations internes. Je suis un peu sociologue, là, je garde l'oreille qui traîne toujours. Régulièrement, il y avait l'accusation des vrais militants sur le tourisme. Le tourisme qui se donne bonne conscience et qui vient voir la jungle, donc voyeurisme de gauche, voyeurisme engagé. C'est une très mauvaise analyse, je pense. Les gens venaient voir la jungle parce qu'ils sentaient. Ils sentaient de la manière que dans cette faille se créait, arrivait un monde tendu, difficile, mais un monde à venir. Et c'était une curiosité, mais aussi une curiosité au sens de ce souci du monde à venir. Hein. Je pense que c'est pour ça que ça a centralisé l'ensemble de cet intérêt. Alors, à partir de là, je veux dire, cette mise en forme de l'expérience, les artistes la mettent en place, mais surtout des objets intermédiaires qu'on a produits systématiquement, qui ne sont pas des objets de recherche, qui sont des objets de faire voir, on va dire, ça fait un petit peu mettre en mots, mettre en forme, mettre en action, hein, les trois pôles que je disais, politique, science, art, avant, donc ils se rapprochent beaucoup, et c'était effectivement le Calemag, que vous avez peut-être vu là, qui sont des vrais, c'est un peu des happenings, hein, c'est-à-dire qu'on on avait copié le format des, vous savez, ces petits trucs stupides des mairies qui font la partie de boule, et puis on avait fait ça avec une image de la jungle dans le désert, et on l'a distribué en ville. Et donc c'était une action, un peu coup de poing, qui documentait la jungle en d'autres termes, qui documentait aussi ce qui est une obsession de Sébastien, et ce qu'on a très bien vu hier, hein, c'est-à-dire que l'accueil est extrêmement présent, hein, il est déjà là. Il n'est pas repris politiquement, mais il est déjà là. Le Secours catholique, la nana du Secours catholique, elle-même évidemment marocaino-iranienne, sur Calais, me disait qu'elle n'avait jamais eu autant de demandes d'aide, de propositions de services, qu'au moment où la jungle a été séparée de la ville. Hein. Donc cet accueil était présent là, mais il faut le faire exister, donc le documenter, le mettre en forme, et lui donner une espèce de consistance politique. La consistance politique, je pense que c'est celle qui manque, et donc ce serait le deuxième versant du parcours tâtonnant que je vous propose, et peut-être aussi un écho à la petite pointe d'ironie qu'il y a quand la Tour dit que le Pérou documente l'accueil. Ça veut peut-être dire aussi qu'il y a le silence sur le politique se maintient, il est pris par le bas en grignotant, il n'est pas affronté. Alors là, il faut changer de casquette, et c'est un petit peu ça que, de façon tout à fait tentative, comme disaient les Anglais, je voulais proposer, c'est-à-dire que le reparler politique, ça veut dire faire exactement le contraire au départ de cette espèce de suivi de l'expérience qui ne s'interroge pas lui-même. Donc c'était extrêmement frappant hier, hein. C'est pour moi ça me choque maintenant, je veux dire, parce que l'indignation. C'est très utile, hein, c'est un moteur essentiel, si elle est travaillée, je veux dire, cette espèce de cri permanent, il faut absolument qu'elle se traduise autrement, c'est une nécessité pour faire advenir des choses. Alors il y a cette partie documentation, mise en forme, mise en action locale, etc., Mais il y en a une autre, c'est de sortir de cet état actuel qui, à mon avis, ressemble à celui de Gaïa. Là, on sait que, comme il dit, c'est déjà trop tard, mais pourtant, toutes les mesures, avec tous les pouvoirs, ne se battent que d'une chose, c'est de ruser avec les dernières réglementations qui baissaient le glyphosate, tu sais quoi, pour qu'on puisse en utiliser encore un peu plus longtemps. Non, c'est pas ça qu'il s'agit, il y a urgence. Eh bien, c'est pareil pour les migrants. Alors, sur un mode complètement différent, et c'est ce mélange-là que, de façon un peu, oui, je disais tentative parce que c'est pas mes spécialités, mais je pense que c'est plutôt, mon but à moi, c'est plutôt de redonner un espace aux politiques, et les moyens, il y aura peut-être des erreurs. Et puisque, dans l'exposé précédent, c'est très utile, là, puisque c'est donc un cadre beaucoup plus long, plus lent, plus long, oui, peut-être, des chiffres, un recul vers les peuplements, population, peupler un sol, c'est des problèmes qui ne sont pas d'hier. Donc, réinsérer ce mouvement-là dans des questions décisives, je prendrai l'axe, puisqu'il avait, ça fait partie de tes cartes, mais il n'a pas été développé, celui de la démographie. Hein, donc là, je change complètement de casquette, et puis en plus, c'est pas moi, ils sont... C'est drôle, pardon, je rebondis encore, le politique, c'est quand même un truc compliqué, parce que le fait que nous sommes devant des migrations massives n'est pas refoulé. Je veux dire, il y a évidemment les thèses d'Agier qui fait ce travail-là depuis très longtemps, mais il y a aussi les chiffres, les démographes, mais il y a aussi l'OIT ou l'OIM, l'Office international des migrations, l'Office international du travail, ils disent ça depuis 20 ans. Hein. Donc, vous voyez, politique, c'est pas savoir des choses. C'est s'en ressaisir pour que ça nous change, nous, ça change ce qu'on veut faire. Cette frontière-là, elle est délicate. Et donc, dans ce Pulse, ce qui sonne assez Gaïa, je trouve, c'est qu'on a une espèce de dessin un peu nouveau. Si ça ressemble à une inversion du pensable, ou alors qu'on avait des projets, on était écolo sur le climat, on était plus ouvert contre la domination, on était antiraciste. Et là, l'effet Gaïa, c'est une sorte d'inversion, c'est-à-dire que toutes ces choses-là sont incroyablement reliées. Je veux dire, je vais le dire très rapidement, mais puisqu'on les a beaucoup évoqués là, c'est que les problèmes actuels, là, c'est la dérive du capitalisme, disons, ou l'excès du capitalisme, ou comme vous voulez, la fin de l'optimisme du capitalisme, il ira vers une théorie de l'équilibre. Non, le capitalisme ne va manifestement pas vers des équilibres. La finance internationale, donc pas la finance elle-même, hein, faut investir pour avoir des choses. Cette dérive où ça devient purement financier, la fracture nord-sud, avec tout ce qu'on peut en dire, les migrations, le climat, qui est quand même tout proche des migrations, hein, à des tas d'endroits, et, disons, les problèmes de biodiversité, d'épuisement des sols, au lieu d'être des rubriques avec ses militants et ses savants, chacune des cases, ça devient une sorte de question globale. Donc le global n'est plus notre thèse, il est ce que Gaïa nous impose. Je dis Gaïa aussi parce que le mot peut être pris d'un tas de sens, mais je pense que l'endroit où il peut nous être utile, c'est ça. C'est cette idée qu'on est face à Gaïa, comme dirait Latour, mais qu'on est face à un problème qui nous arrive et à l'exigence duquel on doit répondre, et en liant tous ces problèmes qui nous arrivent et qui ne sont plus du tout du même ordre. On peut prendre un exemple bénin pour faire comprendre ça, mais les Chinois sont maniaques des armoires en ébène. Ils ont maintenant des moyens financiers énormes. Ça leur coûte rien de piquer tout le bois de Madagascar. Ils l'épuisent, le bois du Congo, ils l'épuisent. Maintenant, ils sont en train de prendre des bois moins chers, moins beaux, mais il n'y a plus que ça, sur la frontière sud du Sahel. Donc vraiment, à un endroit où le bois, ça pourrait servir. Donc vous voyez, ces liens-là, même de façon minimale comme ça, sont aussi liés aux problèmes politiques. C'est-à-dire, il n'y a qu'à faire des lois. Il n'y a qu'à faire des lois. Quand le quart de salaire est tel qu'un pourboire pour un Chinois suffit à corrompre ou à acheter ce qu'il veut en Afrique, et dire non, le déboisement, et il n'y a pas d'instance internationale ou mondiale, là on est en plein là-dessus, mais il n'y a pas de mondial au niveau politique, la souveraineté c'est la souveraineté, pour dire non, là vous n'avez pas le droit, il y a des armées derrière, non, elles ne sont pas là. Et donc ces problèmes de géopolitique mondiale à l'échelle la plus grande sont dans le premier grain de sable qu'on voit à la frontière du Sahel, donc cette idée aussi très latourienne du global et du local qui se répondent, c'est vraiment le nouveau thème du politique. C'était très visible dans cette expérience de Calais, hein, puisque Calais, c'était à la fois la jungle, c'était quelques kilomètres carrés, et des mondes entiers qui venaient là avec le double sens physique, hein, des connexions maximales, mais aussi que l'idée que ce problème qu'on voyait très bien dans la jungle, qu'inventer par rapport à ces migrations massives, était absolument global à faire envoyer aux migrations. Alors du coup, l'autre aspect que je maîtrise évidemment beaucoup moins, mais donc c'est pour défoncer un peu la porte, hein, c'était, en plus dans le prolongement de l'exposé précédent, hein, c'était que comment refaire la connexion sur un mode engagé qui permette de documenter et de produire des actions, des façons de voir différentes, sur un domaine où côté chiffres, on les a, je veux dire, Sud-Nord, 1960, 20 millions de migrants, en 2000, 60 millions, mais la plupart maghrébins, mais dessous, le Sud-Sahara, là, en effet, alors là, pour les migrations, le Sahara est essentiel, donc les vrais Africains, les Sud, pas les Sud-Africains, je sais pas comment on les appelle, les Subsahariens, voilà. 230 millions en 1960, 1 milliard, en 2015, les démographes font ces espèces de projections en disant qu'évidemment c'est que des projections, mais enfin sur des lignes qui sont comme ça, hein. Et qu'il est en 2050, si on suit ces courbes, c'est un cinquième ou un quart de la population européenne qui sera africaine. En 2015, on est 510 millions d'Européens. Il y a 1,3 milliard d'Africains. Et en 2050, ce serait 450 millions d'Européens et 2,5 milliards d'Africains. Alors les démographes sont des gens plus malins qu'on croit. C'est-à-dire que c'est pas des sommes de personnes, c'est surtout les pyramides d'âge, hein, le variable crux de la démographie. Et là, alors, c'est plus de l'intuition, c'est massif. C'est-à-dire que les chiffres sont ahurissants. Enfin, il y a les 4/5 des Africains ont moins de 30 ans. Et donc on a une population jeune, très nombreuse, dans des situations catastrophiques, et une Europe vieille, libérale, ouverte, et ne sachant plus où elle en est. Bon, ben, il y a un bouquin, je ne sais pas si vous l'avez lu, là, que moi j'aime bien aussi penser un peu contre soi-même, là c'est venu aussi dire des bouquins un peu bizarres, le bouquin de Stephen Smith qui s'appelle « La ruée vers l'Europe », donc qui tape un peu, c'est un peu point sur la table, il a été repris évidemment par l'extrême droite, puisque le message c'est oui, la crise des migrants, vous avez peur d'être envahis, ah ben non c'est pas bien, etc. Si, nous serons envahis. Et donc donnons, alors évidemment politiquement c'est plus dur à dire, hein, on comprend bien pourquoi il y a un silence sur la politique, c'est-à-dire comment répondre à cette urgence, cette exigence du monde. Oui, nous allons vivre des migrations de populations massives comme on en a presque jamais connu. Alors qu'on a en tête, attention, le Front National nous dit « Notre civilisation s'effondre, on va être envahi par des hordes de sauvages ». C'est plus difficile de... Alors on répond pas. On répond pas non, parce qu'on disait pas des sauvages, et puis c'est des hommes comme nous, etc. Et on répond pas oui, parce qu'on a peur de faire le jeu du Front National. Et cette peur qui fait ne pas agir de peur d'effrayer ceux qui ont peur, c'est une définition minimaliste du politique. On y reviendrait. Et donc, je sais pas combien de temps j'ai, mais dans une envolée lyrique, alors que j'ai apporté, j'en suis conscient, très très peu de faits, et que les faits ne sont pas de moi, hein, j'en rajoute un, hein, tout de même, le PIB par tête de pipe au Mali actuellement, c'est $675. Et en France, $44,000. Donc, c'est le côté vase communicant, il est très présent. Alors, à nous de jouer. Alors, le « nous », il faut toujours le mettre entre guillemets, puisqu'il n'est pas là. Et c'est plus compliqué que ça. Il est en partie déjà là. Et c'est, je trouve, le travail d'associations comme le Pérou, de bien d'autres. Hein, le nombre d'associations, la France, il n'y a pas d'association, elle meurt. Hein. C'est-à-dire, c'est les associations qui s'occupent des migrants et ils font un travail énorme. L'accueil est déjà là. Sa reprise politique est tabou. J'aime pas le mot tabou parce qu'on dit tabou dès qu'on veut donner de l'importance. Le sexe est tabou, on n'a jamais parlé autant. Bon. La question donc n'est pas tant tabou qu'interdite là. Eh bien, je pense que maintenant, faire de la politique plus à la du oui, c'est-à-dire non pas prendre des décisions, hein, mais au contraire, staying with the trouble, là, pour citer plutôt Haraway, là, rester avec le problème, ne pas proposer des solutions immédiates alors qu'on n'a même pas vu quel était le problème. Accepter l'idée qu'il y a un problème, le français est plus faible que l'anglais. Hein. Les anglais, ils disent « situation »,« we have a situation », ils disent « issues », « concern », voilà. C'est ça qu'il faut entendre par problème, c'est pas « où », ils vont nous embêter avec des problèmes. Hein. C'est un problème massif de migration, massif dans les 50 ans à venir. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on peut poser des questions politiques qui seraient reprises par ceux qui ne les parlent pas en public, et donc ils font pas de politique. Donc elle a dit oui, donc faire de la politique, c'est making things public, ce qui ne veut pas du tout dire qu'une chose existe déjà et qu'on la rend publique en faisant de la publicité ou en parlant dans les débats. Ça veut dire qu'elle doit devenir un enjeu commun à travers le débat, les enquêtes, les actions. Et là, à ce moment-là, on peut aussi donner des directions, mais j'ai terminé là-dessus, mais tout ce qui ne coûte rien ne vaut rien. C'est-à-dire que pourquoi il y a aussi un silence, c'est que ces migrants, qui ont des tas d'autres aspects, hein, moi j'ai une petite théorie personnelle plus psychologisante, c'est que c'est pas du racisme, là, la peur du migrant, c'est la peur des revenants. C'est ceux qui font nos iPhones, sur lesquels on fait notre richesse, à qui on pique les minerais, à qui on pique le café, le chocolat, etc., qui nous reviennent. On a le retour de notre colonialisme, et donc ce sentiment-là doit être très, très, très présent, hein, je pense. Mais du coup, la petite digression, il ne faut jamais faire, parce que j'ai perdu le fil. Mais donc, dans cette discussion des mondes à venir, le traiter comme une situation, ça n'est pas mettre le claim humaniste non interrogé en avant. C'est dire ce que ça nous coûtera, ce qu'il faudra faire. Donc il y a un aspect qui est assez évident, là aussi tabou, hein, que le Front National reprend, évidemment, c'est la fin de notre civilisation. Alors, civilisation, quand on voit la façon dont elle les a civilisés, hein, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, il y a l'aspect religieux qui prend évidemment ses formes fantasmatiques, mais aussi, à quoi tenons-nous? Hein, donc, non, il faut bien parler d'un sol pour accueillir quelqu'un de notre sol. À quoi tenons-nous? Ben, on tient aussi au respect des minorités, à l'acceptation du traitement égalitaire des hommes et des femmes, le droit d'une certaine liberté et à ce que j'appellerais la modération de la violence. Voilà. J'ai un petit panneau là qui change un peu de ma position, hein, c'est plus engagé. C'est si on commence à dessiner ces choses qui nous disent à quoi nous tenons et qui nous feront nous engager, il y a ça. Il y a aussi tout simplement le système social dans lequel nous vivons. Alors là, Smith, il fait une allusion, c'est assez amusant. Mais il dit, attendez, si dans les années 50, c'est en 2050, donc c'est très bientôt, le quart de notre population vient d'Afrique subsaharienne, il faut changer notre système social. C'est-à-dire qu'il faut pas battre en même temps pour le maintien de la retraite à 60 ans, pour un SMIC, Non. Et ça mettra en cause la division entre les riches et les pauvres, non plus nord-sud, mais en gros avec le Sud présent sur nos territoires. Je pense que c'est ça la question. C'est marrant, marrant, c'est pas le mot, mais c'est le retour de Schmitt, là, qui est à la mode dans les milieux gauchistes avec un petit sourire en coin, donc on sait bien qu'il est nazi, mais etc. Je pense que c'est à la fois très schmittien, c'est-à-dire, oui, il faut bien une limite, un sol, on peut parler que d'où on est pour dire ce qu'est l'autre, etc., dans un univers complètement anti-schmittien, c'est-à-dire, alors je sais pas si c'est la première fois au monde, mais ça nous dira, mais c'est la première fois qu'il va falloir redéfinir le politique comme vraiment la cohabitation sur le même sol de populations profondément diverses. Et c'est ça, cette question politique dont je vois pas où on fait l'écho. Et l'accueil, c'est des mots faibles pour ça. C'est pas un accueil. Ça va être habiter ensemble, ça a été dit, habiter ensemble sur le même sol, sans prétendre, sans le dire, à soi une intégration qui va aller de soi, ben voilà, on va aller petit à petit, la démocratie, ils y prendront goût, l'égalité homme-femme, ben ma foi, dans le contexte, non, ça va pas se faire. Maintenant, on fait une théorie de la diplomatie qui est très bonne, hein, la diplomatie, c'est un art de la guerre. La guerre, c'est pour l'éviter, évidemment. Mais regarde le point technique très fort, c'est pas du tout convaincre sur nos valeurs. C'est les maintenir pour nous, alors qu'elles nous, à ce moment-là, et ne négocier, c'est des compromis bâtards qui disent bon, ben ça, on laisse tomber, ça, on garde, ça, on prend, pour arriver à faire cette espèce de feuilletage de monde à venir qui comprendront ce quart de population d'Africains. Alors, quart de population d'Africains, je dis ça avec un côté un peu cavalier, parce que ça ne me plaît pas, évidemment. Hein. Ça considérait qu'on part de ce qui existe et qu'on le compose et que ça donnerait un nouveau pulse, pour prendre la métaphore de tout à l'heure. Non, c'est évidemment nous que ça va profondément transformer. Et c'est ça qu'il faut commencer. Alors là, le français est aussi faible à accepter. C'est très faible. Les Anglais sont bien meilleurs là. Acknowledge. C'est ça qui manque. Pour résumer mon topo, il faut acknowledger cette arrivée massive de migration. Alors, un tout petit mot là-dessus, c'est la crise des migrants. Pourquoi ça marche pas? C'est que ça a été une machine à nous aveugler là-dessus. Guerre de Syrie. Oh, c'est bon, ça fait partie du problème. C'est pas le problème de l'Afrique subsaharienne. Paf, 2 millions de migrants. Donc crise des migrants. L'année suivante, c'est déjà 200 000. 200 000, c'est le flux continu depuis des années. Donc il y a aucune urgence au sens du très court-termiste, au sens très court-termiste qui est utilisé actuellement par ce politique au sens le plus restreint du terme. Panique devant cette invasion immédiate. Non, il n'y a pas invasion immédiate. 200 000, c'est rien à absorber. Alors là, au Cambodge, quand il y a eu le problème, alors évidemment, ils n'étaient pas noirs. Hein. Ils étaient bon, un petit peu, pas tout à fait blancs, mais c'était plus facile. En 6 mois, ils ont été absorbés sans que personne ne moufte. Donc c'est pas un problème technique aujourd'hui. D'ailleurs, l'accueil le montre assez facilement. En revanche, du coup, on ne parle pas de ce qui n'est pas la crise des migrants, mais ce qui est les mondes à venir avec cette mobilité de population, donc ces migrations qui quantitativement sont sans précédent hein, et qui vont nous demander à l'Europe, donc si je rajoute une incise, mais donc de plus en plus tentative, mais je pense que un terme un peu provocateur, un peu dans le fil de ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est de rétablir l'Empire. Alors pas l'Empire pour ramener des esclaves, des femmes et du blé chez nous, hein, donc le mot est sûrement pas le bon à garder, mais l'Empire par rapport à la nation. C'était une invention de génie. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'identité. On n'a pas besoin d'une culture commune. On peut être catalan, français, breton, basque. Non, c'est le minimum que n'importe quel étudiant en sciences politiques ou en diplomatie sait. Hein, c'est l'armée, une loi, une souveraineté. Sans nous occuper de tout ce qui nous fait, les corps, les sols, les murs, etc. Et le recomposer dans un pulse. Alors ça tombe bien parce qu'il y en a un autre empire là. En ce moment. Et cette idée qu'on voit un peu partout, c'est que Trump, au moins, le seul mérite qu'il a, c'est de nous faire penser à ce à quoi nous tenons et comment le repenser. Je pense que c'est très vrai. Ça, c'est un projet européen. Donc, si on fait l'Europe exactement à l'inverse de ce qu'elle est, c'est-à-dire de l'administration d'un côté, et puis touchons pas aux souverainetés, mais qu'au contraire, quand on lui donne une seule chose, la souveraineté, et vous êtes cet empire, il faudra nommer autrement, qui essaye de construire pour la première fois une superposition de peuples sur le même sol. Il y a des essais avant, hein, mais Palestine, Israël, c'est pas une grande réussite, hein, ou Algérie française non plus. Donc non, vraiment composer en gardant cette, alors c'est pas diversité, hein, cette pluralité, cette même non cohérence de valeurs pour négocier une vie commune sur un territoire unique. Je pense que c'est un enjeu européen important. Voilà, mais je suis moi-même pas très sûr de ce que j'ai dit, hein, mais.